Il était sur son char.
Amateur,
propagande. Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Bonjour, vous êtes bien au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique sur Radio Canu, tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, c'est moi, Eva Natalia, qui vous présente la deuxième partie de Just Kids de Patti Smith, que je vous ai préparée pour une diffusion à distance. Vous pouvez retrouver la première partie de la lecture sur le blog du Théâtre de la Gamelle et ainsi rentrer directement à la lecture et l'écoute de cette deuxième partie. Je vous souhaite un excellent moment. À bientôt. Robert était assis sur une chaise. Il était extrêmement pâle. Je me suis mise à genoux et lui ai pris la main. L'ange de la morphine m'avait dit qu'au Chelsea Hotel, il était parfois possible de troquer une chambre contre un tableau. J'étais convaincue de la force des dessins que j'avais faits et le travail de Robert éclipsait sans discussion n'importe laquelle des toiles accrochées dans le hall. Stanley Bard, le gérant de l'hôtel, allait être mon premier obstacle. Je suis entrée dans son bureau d'un pas nonchalant pour lui vanter nos qualités. Il m'a immédiatement congédiée d'un geste de la main sans interrompre une conversation téléphonique qui semblait interminable. Je suis retournée m'asseoir par terre, à côté de Robert, le temps d'apprécier en silence notre situation. Soudain, comme s'il sortait du mur, Harry Smith s'est matérialisé devant nous, avec sa chevelure argentée en bataille et sa barbe emmêlée. Il a fixé sur moi des yeux vifs et curieux grossis par des lunettes à la Buddy Holly et s'est mis à me bombarder de questions sans me laisser le temps de répondre. Qui êtes-vous ? Et avez-vous de l'argent ? Êtes-vous jumeaux ? Pourquoi portes-tu un ruban au poignet ? Harry a raconté qu'il était en train de faire un film d'après Bertolt Brecht. Je lui ai récité un extrait de Pirate Jenny. Ça a scellé notre amitié. Même s'il est un peu déçu que nous n'ayons pas d'argent, il m'a suivi dans le hall. « Tu es sûr que tu n'es pas riche ? Nous, les Smiths, on n'est jamais riches, » j'ai répliqué. Il en est resté comme deux ronces de flan. « Tu t'appelles vraiment Smith, tu es sûr ?»« Oui, ce dont je suis encore plus sûre, c'est qu'on est de la même famille. » J'ai eu le feu vert pour entrer dans le bureau de M. Bard. J'ai choisi l'approche positive. Je lui ai dit que j'allais bientôt obtenir une avance de mon employeur, mais que je lui donnais la chance de posséder des œuvres qui valaient bien plus qu'un loyer. J'ai chanté les louanges de Robert, offert nos portfolios en gage. Bard, bien que sceptique, m'a laissé le bénéfice du doute. Je ne sais pas si la perspective de voir nos œuvres avait la moindre signification pour lui, mais mon engagement à travailler a suffi sans doute à l'impressionner. Nous nous sommes serré la main et j'ai récupéré la clé. Chambre 1017. $55 par semaine pour vivre au Chelsea Hotel. La chambre 1017 était connue pour être la plus petite de l'hôtel. Une chambre bleu pâle avec un lit de camp peint en blanc au-dessus de lit, en chenille crème. Il y avait un lavabo et un miroir, une petite commode et une télé portative en noir et blanc posée au milieu d'une grande nappe fanée. Nous n'avions jamais possédé de télé et elle était restée là, talisman futuriste et néanmoins obsolète avec son cordon qui pendouillait pendant tout notre séjour. Il y avait un médecin dans l'hôtel. Nous avions une chambre propre et une main secourable. Le lieu a principalement servi à la convalescence de Robert. Nous étions chez nous. Je restais près de Robert en silence. Comme elle paraissait différente, la lumière du Chelsea Hotel quand elle tombait sur nos quelques biens, crachée par la lampe de chevet et l'ampoule au plafond, ce n'était pas une lumière naturelle. Pourtant, elle semblait chargée d'une énergie incomparable. Robert se reposait à son aise. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Je lui ai promis de revenir vite. Je ne pouvais pas faire autrement que de le soutenir. Nous étions liés par notre serment. Cela signifiait que nous n'étions pas seuls. Je savais comment m'occuper de lui. Garder les malades, faire partir la fièvre, c'était mon domaine, car ma mère me l'avait appris. Je le veillais tandis qu'il s'endormait. J'étais crevée. Me rentour avait pris un tour pour le moins sportif, mais les choses étaient en train de s'arranger et je ne regrettais rien. J'étais pleine, au contraire, d'un enthousiasme fébrile. Je l'écoutais respirer. La veilleuse éclairait doucement son oreiller. Je sentais dans l'hôtel endormi la force de la communauté. 2 ans plus tôt, il était venu à ma rescousse en apparaissant dans Tompkins Square à l'improviste. À présent, c'est moi qui étais venu à sa rescousse. Sur ce tableau, nous étions quittes. Malgré sa hâte, Robert était contraint de rester au lit car ses dents de sagesse engrenées ne pouvaient pas être arrachées tant que l'infection et la fièvre n'avaient pas cédé. Il détestait être malade. Il quittait trop vite le lit et rechutait. Il ne partageait pas ma conception 19e-isme de la convalescence. Lorsque nous avions débarqué, je n'avais pas la moindre idée de ce que serait la vie au Chelsea Hotel. J'ai vite compris que ce serait un formidable coup de chance qui nous avait poussés là. Pour le même prix, nous aurions pu avoir un spacieux appartement en enfilade dans l'East Village, mais cet hôtel excentrique et maudit nous apportait un sentiment de sécurité et une éducation superbe. Au Chelsea Hotel, la rencontre la plus déterminante que nous avons faite a peut-être été celle de Sandy Daley. C'était une artiste chaleureuse et un peu recluse qui vivait dans la chambre voisine, la 1019. C'était une pièce complètement blanche, même le sol était blanc. Nous devions retirer nos souliers avant d'entrer. Des coussins argentés gonflés à l'hélium de la première factory ballottaient au-dessus de nos têtes. Je n'avais jamais vu un lieu pareil. Pieds nus, nous nous installions sur le sol blanc pour boire du café en regardant ses livres de photographie. J'ai également sympathisé avec un musicien du nom de Matthew Reich. Bien qu'il fût le portrait craché de Bob Dylan, Matthew ne ressemblait à personne. Robert l'aimait bien aussi, mais il ne le supportait qu'à petite dose. Matthew est le premier musicien que j'ai rencontré à New York. Je comprenais sa fixation sur Bob Dylan et en le regardant composer une chanson, j'ai commencé à entrevoir la possibilité de mettre mes poèmes en musique. Une vibration se faisait sentir, une impression d'accélération. Ça avait commencé avec la lune, ce poème inaccessible. Maintenant, des hommes avaient marché dessus. Il y avait des traces de caoutchouc sur la perle des dieux. Peut-être était-ce la conscience soudaine du temps qui passe, le dernier été de la décennie. Parfois, j'avais envie de dire « pousse » et d'arrêter tout. Mais arrêter quoi ? Arrêter de grandir tout simplement, peut-être. J'ai fait un saut au El Kikox. C'était un bar-restaurant adjacent à l'hôtel, relié au vestibule par une porte spéciale, ce qui nous donnait l'impression que c'était notre bar, comme c'était le cas depuis des décennies. Dylan Thomas, Terry Thousand, Eugene O'Neill et Thomas Wolfe faisaient partie des clients qui avaient levé un verre de trop. Je portais une longue robe bleu marine à pois blancs et un chapeau de paille, ma tenue à l'est d'Éden. À la table, à ma gauche, Janis Joplin papotait avec son groupe, à l'extrême droite, Grace Leake et le Jefferson Airplane avec des membres de Country Joe and the Fish. À la dernière table face à la porte, Jimi Hendrix mangeait, tête baissée, chapeau sur la tête, en face d'une blonde. Il y avait des musiciens partout, devant des tables couvertes de petits monticules de crevettes en sauce verte, de paella, de pichets de sangria et de bouteilles de tequila. Je suis restée stupéfaite, mais je n'ai pas eu l'impression d'être une intruse. Le Chelsea était mon chez-moi, le Hellkixox mon bar. Il n'y avait pas de physionomiste, pas d'élitisme envahissant. Ils étaient là pour le festival de Woodstock, mais l'oubli qui régnait dans l'hôtel m'avait tellement gagné que je n'étais pas au courant de sa tenue ou consciente de sa signification. Quand je suis remontée, je ressentais une inexplicable affinité avec ces gens, même si je n'avais aucun moyen d'interpréter mon pressentiment. Je n'aurais jamais pu imaginer que je marcherais un jour sur leurs pas. À cette époque-là, j'étais encore une grande perche de 22 ans, employée de librairie, qui s'exprimait simultanément sur plusieurs poèmes inachevés. Cette nuit-là, j'étais trop excitée pour m'endormir. Des possibilités infinies semblaient tournoyer au-dessus de ma tête. J'ai fixé le plafond de plâtre comme lorsque j'étais enfant. Il m'a semblé que les motifs vibratiles qui s'entrecroisaient au-dessus de moi trouvaient lentement leur place. Le mandala de ma vie. Le Chelsea était comme une maison de poupée dans les limbes, avec 100 chambres qui toutes constituaient un petit univers. J'arpentais les couloirs en quête de ces esprits, morts ou vivants. Je m'adonnais à des espiègleries bon enfant comme de pousser légèrement une porte entr'ouverte afin d'apercevoir le piano à queue de Virgil Thompson ou de rôder devant la plaque d'Arthur C. Clarke dans l'espoir de le voir émerger tout d'un coup. De temps à autre, j'ai tombé sur Gerdschrift, l'universitaire allemand armé de volumes sur Picasso ou Viva, aspergé d'eau sauvage. Tout le monde avait quelque chose à offrir et personne ne semblait avoir beaucoup d'argent. Même ceux qui avaient le mieux réussi avaient l'air d'avoir juste assez pour vivre, comme d'extravagants clochards. Tant d'âmes en transit s'étaient étreintes, avaient gravé leur empreinte, et s'étaient étreintes ici. Je humais leur esprit en filant silencieusement d'étage en étage, rêvant de discourir avec une procession enfouie de chenilles fumantes. Même s'il ne désirait nullement faire partie de son écurie ou jouer dans ses films, le vœu le plus cher de Robert était de parvenir à s'introduire dans la galaxie d'Andy Warhol. Il disait souvent qu'il voyait clair dans le jeu d'Andy, et il était sûr que s'il pouvait lui parler, Andy le reconnaîtrait comme son égal. De mon côté, si je trouvais certes qu'il méritait une audience avec Warhol, j'avais le sentiment qu'il était peu probable qu'il en découle un dialogue significatif, car Andy était une véritable anguille, parfaitement capable d'esquiver toute confrontation digne de ce nom. Robert faisait des esquisses d'installation qu'il ne pouvait pas réaliser, et je sentais bien sa frustration. Il s'est rabattu sur la fabrication de colliers. Robert avait toujours aimé confectionner des colliers, d'abord pour sa mère, puis pour lui-même. À Brooklyn, nous nous fabriquions des amulettes spéciales qui étaient lentement devenues plus élaborées. Dans la chambre 1017, le tiroir du haut de notre bureau débordé de rubans, fils, minuscules têtes de mort en ivoire et perles de verre colorées et d'argent, récoltées pour presque rien dans les marchés aux puces et les boutiques religieuses espagnoles. Assis sur le lit, nous enfilions des perles, perles de troc africaines et grains vernis récupérés sur les rosaires brisés. Mes colliers étaient assez rudimentaires, mais ceux de Robert étaient très complexes. Je lui tressais des cordelettes de cuir et il ajoutait des perles, des plumes, des nœuds et des pattes de lapin. Le lit n'était pas un atelier rêvé, cependant, car les perles se perdaient dans les plis des couvertures ou tombaient dans les fenêtres du parquet.
What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream?
can I do? She's the same with you. How it works. What will I try? I still don't see why. She says what she does. How can we hang on to blame? How can it really be the way it seems? Can I say she's walking away from what we've seen? What can I do? Still loving you, it's all a dream. How can we hang on to the dream? How can it really be the way it seems?
Et il y a eu un coup de veine. Nous avions un voisin, un pauvre type obèse en pardessus froissé qui faisait des allées et venues sur la 23e rue, promenant son bulldog français. Le chien et lui avaient la même tête, la même peau flasque et plissée. Nous lui avions donné le sobriquet de « cochon ». Robert s'est arrêté pour caresser le chien un soir et il a entamé la conversation. Il lui a demandé s'il savait qu'il y avait des appartements vacants dans son immeuble. Cochon a répondu qu'il disposait de la totalité du premier étage, mais que la première pièce lui servait seulement de débarras. Robert a demandé s'il pouvait la sous-louer. Au début, il a hésité, mais le chien appréciait Robert et il a fini par céder et il lui proposait de prendre sa pièce de devant pour 100$ par mois à partir du 1er janvier. Avec un mois de caution, il pouvait d'ores et déjà disposer de la pièce afin de la nettoyer. Robert ne savait pas trop où trouver cette somme, mais il a conclu l'affaire pour une poignée de main. Il m'a emmené visiter l'espace. Par les portes-fenêtres qui donnaient sur la 23e vue, on pouvait voir le YMCA et le haut de l'enseigne de l'Oasis. C'était tout ce dont il avait besoin. Cela faisait au moins 3 fois la taille de notre chambre, il y avait de la lumière à profusion et un mur hérissé d'une centaine de clous. « On pourra y suspendre les colliers », a-t-il dit. « Hum ? Bien sûr, tu peux travailler ici aussi, ce sera notre atelier. Tu vas pouvoir te remettre au dessin. Le premier dessin que je vais faire, ce sera un portrait de cochon. On lui doit une fière chandelle et ne t'en fais pas pour l'argent. » On trouvera. Peu de temps après, j'ai déniché des œuvres complètes de Henry James en 26 volumes pour une bouchée de pain. Les livres étaient en parfait état. Je connaissais un client de Scribner's qui serait intéressé. Les pages de garde en papier de soie étaient intactes, les gravures pimpantes et l'intérieur n'était pas taché. J'ai empoché plus de 100$. J'ai glissé 5 billets de 20$ dans une chaussette que j'ai nouée avec un ruban et l'ai offerte à Robert. En l'ouvrant, il s'est exclamé « Je ne sais pas comment tu fais. » Il est difficile de rendre compte de la vitesse à laquelle nos vies se sont métamorphosées au cours des mois qui ont suivi. En apparence, nous n'avions jamais été aussi proches, mais les angoisses pécuniaires de Robert n'ont pas tardé à venir assombrir notre bonheur. Il ne trouvait pas de travail. Il avait peur que nous ne puissions pas garder des lieux. Les deux lieux. Il fallait constamment la tourner des galeries, rentrer en général frustré et démoralisé. « Il ne regarde même pas mon boulot, en fait, » se plaignait-il. À la fin, ils essayent simplement de m'emballer. J'aimerais mieux creuser des égouts que coucher avec des gens pareils. Il s'est inscrit dans une agence d'intérim pour trouver un temps partiel, mais ça n'a rien donné. Même s'il vendait un collier par-ci, par-là, sa percée sur le marché de la mode se faisait attendre. Le manque d'argent et le fait que ce soit à moi qu'il incombe d'en ramener s'est mis à le déprimer de plus en plus. C'est en partie le stress causé par notre situation financière qui lui a remis l'idée en tête de faire le tapin. Les premières tentatives de Robert sur le trottoir avaient été motivées par la curiosité et le romantisme de Macadam Cowboy, mais il dut se rendre à l'évidence. Travailler sur la 42e n'était pas de la tarte. Il a décidé de s'aventurer sur le territoire de Joe D'Alessandro, dans l'East Side, près de Bloomingdale's, où c'était moins dangereux. Je l'ai supplié d'y renoncer, mais il était déterminé à essayer. Mes larmes ne l'ont pas arrêté. Alors je suis restée les bras ballants, impuissante, à le regarder se préparer pour la nuit qui l'attendait. Je l'imaginais planté à un coin de rue empourpré par l'excitation, s'offrant à un inconnu pour nous rapporter de l'argent. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Sois prudent, je t'en prie. Ne t'en fais pas. Je t'aime. Souhaite-moi bonne chance. » Qui peut connaître le cœur de la jeunesse, sinon la jeunesse elle-même? Robert avait cessé de monter des toiles quand il s'était désintéressé de la peinture, mais il avait gardé l'un des châssis. Il l'avait entièrement couvert de chutes de ses magazines porno 100% masculins. Les visages et torses des jeunes hommes enveloppaient le cadre. Il tremblait presque. « C'est du bon boulot, n'est-ce pas ?»« Oui, j'ai acquiescé. » « C'est génial !»« J'en ai marre d'avoir une tête de berger, » a dit Robert, inspectant ses cheveux dans le miroir. « Tu veux pas me faire une coupe de star du rock des années 50 ?» Bien que très attaché à ses boucles rebelles, j'ai sorti mes grands ciseaux et commencé à tailler dans la masse en pensant « Rockabilly ». J'ai tristement choisi une boucle que j'ai rangée dans un livre, tandis que Robert, fasciné par sa nouvelle image, s'attardait devant son reflet. En février, il m'a emmené à la factory pour visionner des rushs de trash. C'était la première fois que nous étions invités et Robert piaffait d'impatience. Robert circulait avec aisance parmi le cercle voirolien. Dans l'ascenseur, pour nous en aller, Fred Hughes, qui s'occupait de la factory, m'a interpellé d'un ton condescendant. « Oh, mais tes cheveux font très Joanne Baez. Es-tu une chanteuse folk ?» Je ne sais pas pourquoi, car j'aimais bien Joanne Baez, mais ça m'a contrariée. Robert m'a pris la main. « Ignore-le. Bah, » m'a-t-il dit. J'étais d'humeur sombre. Un de ces soirs où l'esprit commence à faire tourner nos contrariétés en boucle, la réflexion de Fred Hughes m'est revenue. Mais qu'il aille se faire foutre, j'ai pensé, agacée par son mépris. Je me suis regardée dans le miroir au-dessus du lavabo. J'ai réalisé que je n'avais pas changé de coupe de cheveux depuis mon adolescence. Je me suis assise par terre et j'ai étalé les quelques magazines de rock qui étaient en ma possession. En général, je les achetais pour y récupérer toutes les nouvelles photos de Bob Dylan, mais cette fois-ci, ce n'était pas lui que je cherchais. J'ai découpé toutes les photos de Keith Richards que j'ai pu trouver. Je les ai étudiées un petit moment. Puis j'ai sorti mes instruments. Et à gros coups de cisaille, j'ai fait mes adieux à l'air folk. Après quoi, je me suis fait un shampoing dans la salle de bain du palier et j'ai secoué mes cheveux pour les sécher. C'était une expérience libératrice. À son retour, Robert a été surpris mais content. « Qu'est-ce qui t'a pris ? » s'est-il exclamé. J'ai répondu d'un simple haussement d'épaule. Mais quand on s'en est retourné au max, ma coupe de cheveux a fait sensation. C'est le moins qu'on puisse dire. Je n'en revenais pas de l'effet produit. J'étais toujours la même personne, mais mon statut social s'est élevé d'un coup. Ma coupe à la Keith Richards déliait automatiquement les langues. Ça m'a fait penser aux filles que je connaissais au lycée. Elles rêvaient de devenir chanteuses, mais finissaient coiffeuses. Aucune de ces deux vocations ne m'attirait particulièrement, mais dans les semaines suivantes, j'allais couper les cheveux de beaucoup de gens et chanter à la mama. Au max, quelqu'un m'a demandé si j'étais androgyne. J'ai demandé ce qu'il entendait par là. Bah, tu sais, comme Mick Jagger. J'en ai conclu que c'était sans doute cool. Je croyais que le mot voulait dire beau et laid en même temps. Mais quelle qu'en soit la signification, par la grâce d'une simple coupe de cheveux, je suis miraculeusement devenue androgyne du jour au lendemain. Des portes se sont soudain ouvertes. Jackie Curtis m'a demandé de jouer dans sa pièce « Femme fatale ». Avec un débit de mitraillette, je déclamais des vers tels que « Il pouvait la prendre ou la laisser, il l'a pris et la laissa ». J'aimais bien le jeu en tant que tel, mais j'avais pour hantise la mémorisation et la couche de fond de teint que l'on doit porter sur scène. Au fond, je ne comprenais rien à l'avant-garde, mais je me disais que ce serait sympa de travailler avec Jackie et sa troupe. Elle m'a donné le rôle sans me faire passer d'audition, donc je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais le pied. Assise dans le hall, j'essayais de ne pas avoir l'air d'attendre Robert. Lorsqu'il disparaissait dans son labyrinthe de tapins, je m'inquiétais. « Qu'est-ce que tu fabriques, mon chou ?» J'ai levé les yeux sur un inconnu qui portait des lunettes noires parfaites. J'écris. « Tu es poète ?»« Peut-être bien. » J'ai gigoté sur ma chaise, l'air détaché comme si je ne l'avais pas reconnu. Mais sa voix traînante et son sourire louche ne laissaient pas de place au doute. Je savais exactement à qui j'avais affaire. C'était le mec de Don't Look Back. L'autre, Bobby Norrit, le conciliateur provocateur, l'alter ego de Bob Dylan. C'était un peintre, un singer, songwriter et un aventurier. C'était le confident privilégié de nombreux grands esprits et musiciens de sa génération. Un battement de cils avant la mienne. Pour dissimuler mon émotion, je me suis levée, j'ai hoché la tête et me suis dirigée vers la porte sans dire au revoir. Il m'a hélée. Hey, « Hé, où est-ce que tu as appris à marcher comme ça ?» Je me suis retournée. « Dans Don't Look Back !» Il m'a ôté mon carnet des mains et a commencé à le feuilleter. Il a vu du potentiel, j'imagine, car il m'a dit « T'as jamais pensé à écrire des chansons ?» Je ne savais pas quoi répondre. « La prochaine fois que je te vois, je veux que tu me files une chanson », m'a-t-il lancé comme nous quittions le bar. Il n'en avait pas besoin d'en dire plus. Quand il est parti, j'ai fait le vœu de lui écrire une chanson. Cette fois-ci, j'avais une véritable mission et quelqu'un qui méritait que je mette cette mission à bien. Robert est rentré tard, il était maussade et un peu fâché que j'ai bu des verres avec un inconnu. Mais le lendemain matin, il a reconnu que c'était quand même motivant que quelqu'un comme Bob Norrit s'intéresse à mon travail. « Peut-être que c'est lui qui va réussir à te pousser à le faire », a-t-il dit. « Mais n'oublie jamais qui a été le premier à vouloir que tu chantes. » Robert avait toujours aimé ma voix. Lorsque nous vivions à Brooklyn, il me demandait de chanter pour l'endormir. Je chantais des chansons de Piaf et des ballades de Child. Je ne veux pas chanter, je veux simplement lui écrire des chansons. Je veux être poète, pas chanteuse. L'un n'empêche pas l'autre, a-t-il répliqué. Une grande partie de la journée, Robert a semblé en proie à un conflit intérieur. Il oscillait entre tendresse et mauvaise humeur. Je sentais bien que quelque chose se tramait, mais il refusait d'en parler. Les silences étaient des signes, j'en étais persuadée. Nous étions déjà passés par là. Même si nous n'en parlions pas, je me préparais lentement au changement qui viendrait sûrement. Nous avions toujours eu des relations intimes, et je crois qu'il nous était difficile à tous deux de parler ouvertement de ce qui se passait. Paradoxalement, on aurait dit qu'il voulait se rapprocher de moi. Peut-être sa tendresse n'était-elle que l'ultime sursaut avant la fin ? Comme celle d'un gentleman qui achèterait des bougies, des bijoux à sa maîtresse avant de lui annoncer que c'est terminé. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on va devenir, ai-je demandé. On sera toujours toi et moi, quoi qu'il arrive, a-t-il répondu. Robert a assisté à toutes les représentations de femmes fatales, amenant souvent des nouveaux amis. Parmi eux, il y avait une fille du nom de Tinkerbell. Elle vivait sur la 23e rue, dans tous les tours de London Terrace, et c'était une factory girl. Son esprit vif séduisait Robert, mais sous ses airs espiègles, c'était aussi une vraie langue de vipère. C'est Tinker Bell qui nous a présenté David Growland. Grand et mince, avec des boucles sombres, la peau pâle et des yeux marron foncé, David pouvait rivaliser avec Robert par sa beauté. À ceux qui lui reprochaient de se servir de cette beauté, il rétorquait « Je ne me sers pas de ma beauté, ce sont les autres qui s'en servent. » Il avait quitté Londres pour Paris avant de rentrer à New York début mai. Il dormait chez Tinkerbell dans les tours de London Terrace et elle avait hâte de nous le présenter. Il était sympathique et respectueux de notre couple. Il a été enchanté par la visite de notre atelier, qu'il a appelé notre usine à art, et a manifesté une admiration sincère en regardant nos œuvres. Notre vie semblait plus facile avec la présence de David. Robert se plaisait en sa compagnie et se réjouissait qu'il sache apprécier son travail. Ce fut David qui lui dégota sa première commande importante, une double page représentant Zelda et Scott Fitzgerald, les yeux masqués par de la peinture en bombe dans Esquire. Robert reçut $300, plus qu'il n'en avait jamais gagné d'un coup. Ils se sont mis à passer de plus en plus de temps ensemble. Je regardais Robert se préparer à sortir comme un lord anglais qui s'habille pour la chasse. Il choisissait chaque chose avec soin. Robert s'épanouissait socialement. Il rencontrait des gens qui se tenaient à cheval sur les frontières de la factory et il était invité à tous les dîners. Sa capacité d'adaptation dans ce genre de situation sociale ne cessait pas de m'impressionner. Il était tellement timide lors de notre première rencontre. À mesure qu'il apprenait à naviguer sur les eaux redoutables du Max, du Chelsea et de la Factory, je le voyais se réaliser. Là-dessus, j'ai reçu un appel inattendu de Tinkerbell. Elle m'a annoncé de but en blanc que Robert et David avaient une liaison. « Ils sont ensemble en ce moment même », a-t-elle ajouté avec un imperceptible accent de triomphalisme. Je me suis contentée de répondre que son appel n'était pas nécessaire car j'étais déjà au courant. Lorsque j'ai raccroché, j'étais assommée, mais je ne pouvais que demander en même temps si elle n'avait pas simplement formulé ce que j'avais deviné toute seule. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait appelée. Ce n'était sûrement pas pour me rendre service. Nous n'étions pas si proches que cela. Je me suis demandé si elle avait de mauvaises intentions ou s'il s'agissait de commérages à l'état brut. Il se pouvait également qu'elle ne dise pas la vérité. Dans le bus, sur le trajet du retour, j'ai pris la décision de me taire afin de laisser à Robert la possibilité d'expliquer comment il le déciderait. Il avait son air agité. Il était allé sur la 42e rue, avait repéré un nouveau magazine porno intéressant, mais il coûtait $15. Il avait l'argent, mais il voulait être sûr que ça les valait. Tandis qu'il l'extrayait de la cellophane, le patron était revenu et l'avait surpris. Il avait commencé à crier et à exiger que Robert l'achète. Robert s'était énervé et lui avait jeté le magazine à la figure. Le type alors avait fait mine de s'attaquer à lui. Il s'était enfui du magasin, avait sauté dans le métro et était rentré. Tout ça pour un fichu magazine. Il était bien? Je ne sais pas, il avait l'air, mais... Il m'a fait passer l'envie. Tu devrais prendre des photos toi-même. Elles seraient meilleures en plus. Je ne sais pas. C'est une possibilité, j'imagine. Quelques jours plus tard, nous sommes passés chez un ami. D'un air détaché, Robert a saisi son appareil Polaroid. Est-ce que je peux te l'emprunter? A-t-il demandé. L'appareil Polaroid était entre les mains de Robert. L'acte physique, une secousse du poignet, le déclic en prenant la photo et l'excitation de l'attente. J'ai été le premier modèle de Robert. Il était à l'aise avec moi et il avait besoin de temps pour affirmer sa technique. L'immédiateté du processus convenait à son tempérament. Il a été lui-même son premier modèle masculin. Personne ne pouvait rien trouver à redire à ce qu'il se prenne en photo. Il avait tout contrôle sur les opérations. Il a déterminé ce qu'il voulait voir en se regardant lui-même. L'obligation de secret étouffait Robert et David. Tous deux ne détestaient pas un certain degré de mystère, mais je crois que David était trop franc pour continuer de me cacher leur relation. Des tensions sont apparues entre eux. Robert s'est retrouvé coincé dans une position où il était forcé de me révéler ce que je savais déjà. Je suis restée calme et ne l'ai pas interrompu tandis qu'il se démenait pour trouver les mots justes pour m'expliquer ce qu'il venait de se passer. Je ne retirais aucun plaisir de le voir ainsi déchiré. Je savais que c'était difficile. Je lui apportais ce que m'avait dit Tinkerbell. Il s'est mis dans une colère noire. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Robert était anéanti que Tinkerbell m'ait appris non seulement qu'il avait une liaison, mais qu'il était homosexuel. Comme s'il avait oublié que je le savais. Le fait que c'était la première fois qu'on lui accolait ouvertement une étiquette sexuelle devait ajouter à la difficulté de la chose. Robert s'est mis à pleurer. « Tu es sûre ?» j'ai demandé. « Je ne suis sûre de rien. Je veux travailler à mon œuvre. Je sais que je suis douée. C'est tout ce que je sais. » Patty, a-t-il ajouté en me serrant les bras. Tout cela n'a rien à voir avec toi. Nous restions fidèles à notre serment, Robert et moi. Aucun de nous deux ne quitterait l'autre. Je ne l'ai jamais vu par le prisme de sa sexualité. Mon image de lui est demeurée intacte. Il était l'artiste de ma vie. Un soir, je suis tombée sur Tony Ingracia, un auteur dramatique qui travaillait avec la mama. Il m'a demandé de passer une audition pour un rôle dans sa nouvelle pièce, Island. J'étais un peu sceptique, mais en me confiant le texte, il m'a promis qu'il n'y aurait pas de tartines de fond de teint et pas de paillettes. Le rôle était apparemment facile pour moi car je n'avais pas à communiquer avec une autre personnage de la pièce. Léona, mon personnage, était totalement repliée sur elle-même. Elle se piquait au speed et se lançait dans des divagations sans queue ni tête sur Brian Jones. Je n'ai jamais saisi tout à fait le sujet de la pièce, mais c'était la grosse production du moment. Comme je devais avoir l'air le plus piteux possible, j'ai mis mon t-shirt à col bateau effiloché, me suis noirci les yeux au col, j'ai réussi à me faire une tête de raton laveur camé, j'imagine. J'avais une scène de movie. Du vomi. Ce n'était pas bien compliqué. Je n'avais qu'à garder dans ma bouche une bonne quantité de pois écrasés et de farine de maïs humide pendant plusieurs minutes avant d'envoyer valser le tout. Mais un soir, à la répétition, Tony m'a apporté une seringue et m'a dit d'un ton détaché « Tu n'as qu'à t'injecter de l'eau, tu sais, tu tires quelques gouttes de sang de ton bras et les gens croiront que tu te piques vraiment. » J'ai failli tomber dans les pommes. Je pouvais même pas regarder la seringue, encore moins me l'enfoncer dans le bras. « Mais il n'en est pas question !» j'ai répondu. Ils sont restés incrédules. « Tu ne t'es jamais piqué ?» À cause de mon apparence, tout le monde croyait dur comme fer que je me droguais. J'ai refusé de me piquer. Finalement, ils m'ont tartiné le bras de cire chaude et Tony m'a montré comment m'y prendre. À l'époque, je lisais aussi à Robert les nouveaux poèmes que j'avais écrits. « Mais tu devrais permettre aux autres de t'entendre, » a-t-il dit comme à l'accoutumée. « Mais toi, tu m'entends ?» Ça me suffit. Mais je voudrais que tout le monde t'entende. Non, tu voudrais que je fasse une lecture dans un de tes foutus salons compassés. Mais Robert, qui ne se laissait pas décourager comme ça, a insisté. Et lorsque Gérard Malanga lui a parlé d'une soirée micro-ouvert animée par le poète Jim Carroll un mardi, il m'a fait promettre d'aller y lire. J'ai accepté d'essayer et choisi deux ou trois poèmes qui me semblaient adaptés à la scène. Je ne me rappelle plus ce que j'ai lu, mais je ne risque pas d'oublier ce que portait Robert, une jambière en lamée dorée qu'il avait dessinée lui-même. Nous avions quelque peu discuté de l'étui peignant assorti et nous avions décidé de lui forcer le trait. Je voyais en lui un mélange d'Arthur Rimbaud et de Parsifal, le fou sacré. Vers la mi-juillet, j'ai payé la dernière traite de ma première guitare. J'ai acheté un songbook de Bob Dylan et appris quelques accords faciles. Au début, ça ne sonnait pas trop mal, mais plus je jouais, plus ça se gâtait. J'avais pas réfléchi qu'une guitare, ça s'accordait. Et j'ai réalisé que chaque fois qu'elle se désaccorderait, je n'aurais qu'à trouver un musicien et lui proposer de l'essayer. Les musiciens au Chelsea, ce n'était pas ce qui manquait. Jouer dans Island m'a fait comprendre que j'avais un don pour la scène. Je n'avais pas le trac et j'aimais susciter une réaction dans le public. Mais je me suis fait la réflexion que je n'étais pas faite pour être actrice. À mes yeux, être acteur, c'était comme être soldat. Il fallait se sacrifier pour le bien commun. Il fallait croire dans la cause. Je n'étais tout bonnement pas capable d'abdiquer assez ma personnalité pour être actrice. Le rôle de Léona a suffi à cimenter mon image complètement affondée d'acrose, en fait. Je ne sais pas ce qu'était une grande actrice, mais j'étais suffisamment crédible pour faire une mauvaise réputation. La pièce a rencontré un vrai succès mondain. Andy Warhol est venu tous les soirs et il a sincèrement envisagé de travailler avec Tony. En août, Janis Joplin revint pour son concert pluvieux à Central Park. Elle avait l'air extrêmement heureuse. Elle avait hâte d'enregistrer et à son arrivée, elle resplendissait dans ses boas de plumes magenta, rose et mauve. Elle les portait partout. Le concert a remporté un franc succès et ensuite nous sommes tous allés au Remington, un bar d'artistes près du sud de Broadway. Janice a passé la plus grande partie de sa soirée avec un beau garçon qui lui plaisait, mais juste avant la fermeture, il a filé à l'anglaise avec une des filles plus jolies qui jouait les parasites. Janice était effondrée. « Mais ça m'arrive à tous les coups, mon vieux. Encore une nuit toute seule », a-t-elle sangloté. On m'a demandé de la raccompagner au Chelsea et de garder un œil sur elle. J'ai ramené Janice à sa chambre et je suis restée tandis qu'elle se lamentait sur son destin. Avant de partir, je lui ai dit que j'avais fait une petite chanson pour elle et la lui ai chantée. Je travaillais comme un diable pour leur faire voir ce que je sais faire. Oh, j'aurais jamais rêvé que ce serait nécessaire. J'imagine des tours du monde, quelques photos. Ah ça, j'aime rire quand rit la foule lorsque l'amour se glisse dans une salle pleine. Mais oh, bébé. Quand la foule se disperse, quand je vais me coucher et réalise que je suis seule, je n'en reviens pas d'avoir dû te sacrifier. Toi. C'est tout à fait moi, mon vieux. C'est ma chanson, a-t-elle dit. Comme j'étais sur le départ, elle a rajusté ses boas dans le miroir. De quoi j'ai l'air, mon vieux? D'une perle, j'ai répondu. Une vraie perle. Entourée de chansons inachevées et de poèmes abandonnés, j'étais à la fois dispersée et coincée. J'allais aussi loin que je pouvais et me prenais un mur, celui des limites de ce que j'imaginais. C'est alors que j'ai rencontré un type qui m'a révélé son secret, et ce n'était pas sorcier. Quand tu prends un mur, abats-le d'un coup de pied. Encouragé par David, Robert trimballait ses œuvres de galerie en galerie, en vain. Sans se laisser abattre, il a cherché une alternative et a décidé d'exposer ses collages pour son anniversaire à la galerie de Stanley Amos au Chelsea Hotel. L'exposition se déroulait dans la suite 510 du Chelsea. La pièce était bondée. Robert est arrivé avec David en promenant les yeux sur les œuvres. Je pouvais retracer toute notre histoire à l'hôtel. Observer la réaction des gens devant les œuvres que j'avais vues Robert créer était une expérience bouleversante. Son travail quittait notre sphère intime. C'était ce que j'avais toujours voulu pour lui. Mais j'ai senti une pointe de possessivité à devoir le partager avec d'autres. La joie de voir le visage de Robert illuminé par la reconnaissance qui venait de conforter l'emportait cependant sur toute autre impression. Tandis qu'il entrevoyait l'avenir qu'il avait appelé de ses vœux et une telle résolution et travaillait si dur pour se réaliser.
Among them, to think he could outguess you.
Même si nous étions un peu éloignés à cette période, nous avions un terrain d'entente. Notre travail. Comme il l'avait promis, Robert était déterminé à me trouver une lecture. Il a parlé de moi à Gérard Malanga qui devait lire à Saint-Mark Church en février. Gérard a eu la générosité d'accepter de me faire passer en première partie. Le Poetry Project, sous la conduite d'Anne Waldman, représentait une tribune convoitée, même pour les poètes les plus confirmés. Tout le monde avait lu dans l'église. Si jamais je devais lire mes poèmes, c'était vraiment l'endroit rêvé. Mon but n'était pas seulement de m'en sortir honnêtement ou de sauver l'honneur, c'était de créer l'événement. Je le faisais pour la poésie. Je le faisais pour Rimbaud. Je le faisais pour Grégory. Je voulais insuffler dans le mot écrit l'immédiateté et l'attaque frontale du rock'n'roll. Après avoir mentalement passé en revue tous les musiciens qui transitaient par le Chelsea, je me suis rappelé que Lenny avait dit jouer de la guitare électrique. Je suis allée le voir. Tu joues de la guitare, non ? Ouais, j'aime bien jouer de la guitare. Est-ce que tu serais capable de faire le bruit d'un accident de voiture avec ta guitare électrique ? Ouais, aucun problème, a-t-il répondu sans hésitation. En guise de clin d'œil à Brecht, j'ai décidé de commencer la lecture en chantant Mack the Knife. Lenny est entré dans le jeu. Robert a fait son entrée avec David et ils se sont installés au milieu du premier rang. L'atmosphère était chargée. La réception n'a pas été sans coup d'éclat. Pour la performance, j'ai puisé dans toute l'arrogance refoulée que je pouvais posséder. Mais après coup, j'étais tellement pleine d'adrénaline que je me suis emportée et comportée comme un jeune coq. Suite à la lecture, on m'a bombardée d'offres. Le magazine Cream a accepté une série de poèmes de moi, on m'a proposé des lectures à Londres et Philadelphie, un livret de poèmes chez Middle Earth Book et un possible contrat pour un disque chez Blue Sky Records, le label de Steve Paul. Au début, c'était flatteur, puis j'ai trouvé ça gênant. La réaction était encore plus extrême que celle qui avait accueilli ma coupe de cheveux. C'était, me semblait-il, trop facile. Rien n'était venu aussi facilement à Robert, ni aux poètes dans lesquels je me reconnaissais. J'ai décidé de reculer. J'ai refusé le contrat d'enregistrement. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Robert se livre à corps perdu au pouvoir de sa nouvelle pratique. Je l'avais encouragé à prendre des photos pour les intégrer dans ses collages et installations, car j'espérais le voir reprendre le flambeau de Duchamp, mais sa visée avait changé. La photo n'était plus un moyen, mais une fin. Il a commencé à diversifier ses activités. Il photographiait ceux qu'il rencontrait à travers sa vie mondaine complexe, les célèbres et les scandaleuses, de Marianne Faithfull à une jeune tympa couverte de tatouages. Mais il revenait toujours à sa muse. Je n'avais plus le sentiment d'être le modèle qui lui convenait, mais il balayait mes objections d'un revers de la main. Il voyait davantage en moi que je ne pouvais le voir moi-même. Lorsqu'il détachait l'image du négatif Polaroid, il disait « Avec toi, je ne peux pas louper mon coup. » Les poèmes parus dans Crime ont marqué la première publication importante de mes poèmes. Sandy Pearlman en particulier avait une idée bien précise de ce que je devais faire. Il me voyait chanteuse dans un groupe de rock and roll, une idée qui ne m'était jamais venue à l'esprit ou que je n'avais jamais cru possible. Nous avons commencé par la chanson que j'avais écrite pour Janice, celle qu'elle n'avait jamais chantée. Je trouvais cela comique que Robert s'inquiète tellement du contenu de mes textes. Il craignait que je ne réussisse pas mon travail s'il était trop provocateur. Il voulait aussi que j'écrive une chanson sur laquelle il puisse danser. Eh bien, ça ne m'intéressait pas. Et je n'avais pas l'intention de me polisser. Il a été piqué au vif, mais il n'a jamais changé d'avis. Robert était très courtisé, par les hommes et les femmes, indifféremment. Souvent, des connaissances frappaient à ma porte pour savoir s'il n'était pas chasse-gardisé et me demandaient des tuyaux pour le conquérir. « Il faut aimer son travail », je répondais, mais peu m'écoutaient. Aimer son travail. C'était le seul moyen de gagner le cœur de Robert. Mais la seule personne qui l'a réellement saisi, qui a eu la capacité d'aimer son travail d'un amour inconditionnel, c'était l'homme qui devait devenir son amant, son mécène et son ami pour la vie. Il est entré dans notre vie avec une rapidité époustouflante. Sam Watkta, sorte de Gary Cooper géant et bourru avec la voix de Gregory Peck, avait une présence sculpturale, comme s'il était taillé dans le granit. Il était affectueux et spontané. Si Robert était attiré par Sam, ce n'était pas uniquement à cause de sa beauté. Il était doté d'une nature positive et curieuse, et contrairement à d'autres personnages que Robert avait rencontrés dans le milieu de l'art, il ne semblait pas tourmenté par la complexité de ses inclinations. Sam nous plaisait à tous les deux. Moi pour son côté franc-tireur, Robert pour son côté aristocratique. Il étudiait le soufisme et s'habillait simplement de lin blanc et de sandales. Il était dépourvu de prétentions et semblait parfaitement inconscient de l'effet qu'il produisait sur les autres. Et pour sceller une union qui semblait prédestinée, Robert et Sam partageaient le même anniversaire, avec 25 ans d'écart. Robert a offert à Sam une photo et Sam a offert à Robert un Hasselblad. Cet échange précoce symbolisait les rôles respectifs d'artiste et de mécène. Le Hasselblad était un appareil de moyen format avec un dos polaroïde. Sa complexité nécessitait l'usage d'un pose-mètre et les objectifs interchangeables ouvraient à Robert une grande profondeur de champ. Il disposait ainsi de plus de choix, de souplesse et de contrôle sur son usage de la lumière. Robert avait déjà fini son vocabulaire visuel. Le nouvel appareil ne lui apprit rien, mais lui permit d'obtenir exactement ce qu'il cherchait. Robert et Sam n'auraient jamais pu choisir l'un pour l'autre des cadeaux plus porteurs de sens. Après notre cambriolage, il était temps de s'en aller. Nous sommes restés un moment avec Robert, de mon côté du loft. Je savais que nous pensions à la même chose, à tout ce que nous avions traversé, bon et mauvais, mais que nous éprouvions ainsi un certain lourd soulagement. Robert m'a pressé la main. « Tu es triste ? » a-t-il demandé. « Je suis prête. » Nous quittions le tourbillon de notre existence post-Brooklyn qui avait dominé par la tribune frémissante du Chelsea Hotel. Les années sont passées, ensemble, séparément. Un jour, en fin d'après-midi, nous marchions dans la 8e rue lorsque nous avons entendu le son de Because the Night qui passait à tue-tête dans tous les magasins, l'un après l'autre. Single tiré de l'album Easter, c'était ma collaboration avec Bruce Springsteen. Robert avait été notre premier auditeur lorsque nous avions enregistré la chanson. J'avais une bonne raison. C'était ce qu'il avait toujours voulu pour moi. À l'été 1978, la chanson est montée jusqu'à la 13e place du top 40, réalisant le rêve de Robert, que j'ai un jour un tube. Robert, souriant, marchait en rythme. Il a sorti une cigarette et l'a allumée. Nous avions parcouru un sacré bout de chemin depuis le jour où il m'avait délivré de l'auteur de science-fiction et où nous avions partagé un egg cream sur le perron près de Tompkins Square. Mon succès était pour Robert l'objet d'une fierté sans mélange. Ce qu'il voulait pour lui-même, il le voulait pour nous deux. Il a exhalé avec une volute de fumée parfaite et il a parlé de ce ton qu'il n'utilisait qu'avec moi, une gronderie feinte de l'admiration sans envie, notre langage de frères et sœurs. « Patty », a-t-il fait d'une voix traînante. t'es devenu célèbre avant moi. Robert a appris qu'il avait le sida en même temps que j'ai su que je portais mon deuxième enfant. C'était en 1986, fin septembre, et les branches des arbres ployaient des poires. Je vais vaincre cette saloperie, m'a-t-il dit. Je l'ai cru de tout mon cœur. Je te vois bientôt, j'ai promis. Tu as illuminé ma journée, Patty, a-t-il dit. Je l'entends encore prononcer ces mots. Je l'entends encore en ce moment même. Les semaines qui ont suivi, Robert m'a photographié plusieurs fois. Pour l'une de nos dernières séances, j'ai mis ma robe noire préférée. Il m'a tendu un papillon morphe bleu monté sur une épingle de tourière à terre de verre. Il a pris un polaroïd en couleur. Tout semblait noir et blanc à côté du papillon bleu iridescent, symbole de l'immortalité. En reprenant mon train-train quotidien dans le Michigan, je me suis aperçue que je languissais de la présence de Robert. Notre complicité me manquait. Le téléphone que j'esquivais de temps en temps est devenu vital et nous nous parlions souvent, même si parfois les appels étaient dominés par l'atout de plus en plus omniprésente de Robert. Robert désirait vivement faire notre portrait de famille. L'après-midi où nous sommes arrivés chez lui, il était bien habillé et d'une courtoisie impeccable. Bien qu'il dût souvent quitter la pièce submergée par une vague de nausées, je le regardais, impuissante, minimiser ses souffrances avec son stoïcisme coutumier. J'ai pris ma fille dans mes bras et elle a tendu les mains vers lui avec un grand sourire. « Patty, a-t-il dit en pressant l'obturateur, elle est parfaite. » Ce fut notre dernière photo. Cher Robert, souvent, quand j'ai des insomnies, je me demande si toi aussi tu es éveillé dans le noir. Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu te sens seul? Tu m'as tiré de la période la plus obscure de ma jeune vie. Tu m'as fait partager le mystère sacré de ce que cela signifie d'être un artiste. J'ai appris à voir à travers toi, et je ne compose jamais un vers et je ne dessine jamais une courbe qui ne dérive du temps précieux que nous avons passé ensemble. Ton œuvre, venue d'une source fluide, trouve ses origines dans le champ nu de ta jeunesse. Tu disais alors aller main dans la main avec Dieu. Rappelle-toi, à travers toutes les épreuves que tu as toujours tenu cette main, serre-la bien, Robert, et ne la lâche pas. L'autre après-midi, quand tu t'es endormi sur mon épaule, je me suis assoupie aussi. Mais avant de sombrer, l'idée m'est venue en regardant tous tes objets, tes œuvres et en passant en revue mentalement des années de travail, que toutes tes œuvres, tu es encore la plus belle de toutes les œuvres. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Patty et moi-même. Toute l'équipe du Théâtre de la Gamelle et moi-même vous souhaitons vraiment une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Canu, vendredi de 13h à 14h. Bonne semaine.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.